mettre dans la loi quel est le plus grand commandement. Quel est le grand commandement? Quel est l'essentiel? Quel est le cœur de la loi? C'est une question piégée parce qu'elle n'est pas de bonne intention, c'est pour piéger Jésus, c'est pour le mettre à l'épreuve. Mais c'est quand même une question pertinente à cette époque-là. Parce que, vous savez, la loi de Moïse, la Torah, part de la première table, la première loi, qui contient 10 commandements. Mais avec le temps, les fils d'Israël ont réalisé que leur parcours, les rencontres qu'ils ont eues avec d'autres peuples et des expériences nouvelles nécessitaient des petites précisions pour rester attachés à ces 10 commandements. Ainsi, pour pouvoir utiliser ces 10 commandements pour toutes les circonstances, pour toutes les conditions, ils sont arrivés à un code de 613 lois. Et les pharisiens, malgré leur orgueil, sont ceux-là qui s'efforcent à respecter les 613 commandements pour être sûrs de se conformer à la volonté de Dieu. Mais qui est cet homme qui peut réussir à respecter scrupuleusement 613 lois? Et alors, certains commençaient à se dire, puisque c'est peut-être impossible de respecter scrupuleusement les 613, est-ce qu'on ne peut pas trier, est-ce qu'on ne peut pas sélectionner pour trouver l'essentiel par rapport à ce qui serait accessoire? Donc c'est une question qui a son sens. Mais la réponse de Jésus ramasse toutes les autres questions connexes. Jésus sait que on les met à l'épreuve, il fait confiance et il respecte l'interlocuteur. Il répond sans méchanceté et simplement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le schéma Israël, écoute Israël, c'est le fondement même de la foi. Les pharisiens le savent. Et après, il ajoute le deuxième commandement qui est aussi semblable au premier: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette réponse, Jésus nous montre donc que le commandement de Dieu est assis sur un petit triangle. Donc chacun doit se représenter, donc nous-mêmes, Dieu et les autres. Aimer Dieu, s'aimer soi-même et aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et quand vous prenez l'histoire du peuple élu, quand vous prenez l'histoire de l'Église, quand vous prenez l'histoire des nations, quand vous prenez votre propre vie, vous allez réaliser que ce n'est pas toujours évident. Pourquoi il y a cette insistance? Aimer Dieu de tout son cœur, de tout ton âme, de tout ton être. Si je vous posais la question, est-ce que vous aimez Dieu? C'est sûr, la réponse est oui. Personne ne déteste Dieu parmi nous. Mais si je vais plus loin, est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit? Mais vous direz peut-être que bon, vous vous efforcez. Il y a des jours où vous y arrivez, heureusement. Mais il y a d'autres jours, c'est pas de tout votre cœur. Donc le peuple d'Israël lui-même est passé par des moments d'épreuve. Comment aimer Dieu lorsqu'on est dans des situations d'épreuve? N'est-ce pas, on a l'impression que Dieu nous a oubliés? N'est-ce pas, on a l'impression que Dieu laisse faire? Et d'ailleurs, chaque fois que l'homme réussit, il est content de sa réussite, il est fier de son progrès. Mais lorsqu'il échoue, très souvent, il condamne Dieu parce qu'il dit « Dieu laisse faire ». Le peuple d'Israël, lors de l'exode, de la sortie d'Égypte, ils ont eu des moments d'épreuve. Et il y a des jours où ils sont tombés. Comment aimer Dieu lorsqu'autour de nous, il y a d'autres personnes qui ne croient pas à ces dieux, qui n'aiment pas Dieu ou qui a d'autres divinités? Les fils d'Israël, dans le désert, ont cédé à cette tentation en demandant à Aaron de leur faire un veau d'or. Parce qu'ils avaient besoin de Dieu visible, Dieu palpable. C'est donc un moment d'épreuve. Et si vous avez suivi la deuxième lecture, saint Paul fait éloge de Thessaloniciens parce que il réalise que les Thessaloniciens ont accepté la parole de Dieu dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve. Et ces épreuves ont fortifié leur foi au point de devenir modèle pour tous les autres chrétiens. Nous aussi, comme Église, comme espace missionnaire, comme chrétiens, comme chrétiennes, comme prêtres, nous aussi, nous sommes invités, malgré les épreuves, à devenir des modèles pour les autres. La deuxième difficulté que le fils d'Israël avait avec la loi de Moïse, c'était le prochain qu'il faut aimer. C'est vrai qu'il faisait l'expérience de l'amour comme nous tous. Nous aimons. Certaines personnes, nous les aimons peut-être beaucoup. Nous pouvons dire nous les adorons. Mais il y a d'autres personnes. Ce n'est pas évident. Nous nous efforçons pour vraiment arriver à les aimer. Pour telle ou telle condition, ils ne paraissent pas aimables. Il y a d'autres peut-être encore où là c'est vraiment tranché, impossible de les aimer. Les fils d'Israël, lorsqu'ils reçoivent la loi de Moïse, ils ont par exemple dans leur passé les peuples d'Égypte qui les a réduits en esclavage. Ils ont aussi la Mésopotamie où ils sont réduits en esclaves. Comment aimer ce peuple? Comment aimer ce prochain? Comment aimer votre agresseur? Comment aimer celui qui vous fait du mal? Comment est-ce possible? Et finalement, ils ont simplifié les choses dans les 613 commandements. Lorsqu'ils parlent du prochain, c'est donc le frère et la sœur de la tribu, de la culture et de la religion. Et c'est comme ça d'ailleurs, le Christ viendra corriger. Vous avez appris aimer votre prochain, haïssez votre ennemi. Mais moi je vous dis, une autre difficulté que les fils d'Israël ont eue, qui nous arrive parfois à nous aussi, s'aimer soi-même, et c'est possible, sans tomber dans l'orgueil, dans l'égocentrisme, dans l'égoïsme, et c'est possible. Est-ce que ça ne nous arrive pas de nous dire « Je suis bête, je ne vaux rien ?» Je suis toutes les qualifications négatives. Toutes ces qualifications sont loin de l'amour que nous devons avoir envers nous-mêmes. Vous voyez donc que c'est aimer Dieu, aimer le prochain, ce n'est pas chose facile. Et la loi de Moïse à laquelle se réfèrent les pharisiens a voulu essayer de mettre de l'équilibre, mais surtout pour protéger le plus faible contre le plus fort, qui ont toujours tendance à écraser le plus faible. C'est pour ça que vous avez suivi dans la première lecture, n'écrasez pas, et le plus faible dans la société, ce sont les immigrés, les veuves et les orphelins. Mais le Seigneur dit, ne faites pas ça, parce que par le passé, vous l'avez été vous aussi. Et vous avez pu trouver l'accueil. Vous êtes allé en Égypte, c'était la famine qui vous y a envoyé. Même si plus tard, un pharaon et d'autres Égyptiens vous ont réduit à l'esclavage. Mais n'oubliez pas que ceux qui vous avaient accueillis avant, ils vous avaient témoigné de l'hospitalité. Faites de même à votre tour. Parce que évidemment, lorsque les fils d'Israël sont sortis d'Égypte et ils se sont installés chez eux, il y a eu la prospérité et ils ont oublié les faibles, les immigrés, les orphelins et les veuves. Lorsque le Seigneur recentre tout, c'est pour dire ce qu'il dit d'ailleurs, le jeudi saint, il résume toute la loi, c'est la loi de l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous avons peut-être à nous convertir, nous avons des efforts à faire par rapport à ces triangles. Nous avons peut-être encore des efforts à faire pour parfaire l'amour avec Dieu. Arriver à chanter comme on l'a entendu dans le psaume, puisque aimer Dieu, aimer quelqu'un, c'est lui donner ce qu'on a de plus précieux. Et qu'est-ce qu'on a de plus précieux? C'est notre temps. Alors si vraiment nous aimons Dieu, nous aimons les prochains, nous nous aimons nous-mêmes, essayons de nous donner, de donner à Dieu, de donner aux prochains notre temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux à nous? C'est aussi les belles paroles. les belles paroles d'amour, comme les psaumes nous les disent, j'aime le Seigneur parce que c'est lui mon soutien. La prière, c'est ces temps-là de rencontre avec le Seigneur parce que nous l'aimons. Prions pour que le Seigneur nous aide à nous repentir, à nous confesser toutes les fois que nous ne l'avons pas aimé de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. De nous confesser, de nous repentir chaque fois que nous n'avons pas aimé le prochain. Chaque fois que nous ne nous sommes pas aimés nous-mêmes. Saint Augustin a dit, aime et fais ce que tu veux. Il veut dire, dès qu'on aime réellement, tout ce qu'on fera après est merveilleux. Si on aime réellement, lorsqu'on parlera, on parlera par amour. S'il faut se taire, ça sera par amour. S'il faut corriger, ça sera par amour. S'il faut exaucer, ça sera par amour. Aimons, et avec la grâce de Dieu, aimons vraiment et faisons ce que nous voulons. Amen.